Gloire à Dieu. Béni soit notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Et encore cet après-midi qui veut nous parler, et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, la Bible, dans le psaume 127. Psaume 127, verset 1er. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Vivre une vie vaine, est-ce que cela vous intéresse? Vivre une vie pour rien, une vie inutile, une vie sans but. Je crois que normalement ça n'intéresse personne. Vous avez vu dans ce psaume, à plusieurs reprises, il y a ce mot, des choses que l'on peut faire vainement. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous de bon matin, vous couchez-vous tard. Et nous voyons et nous comprenons par là très simplement que dans la vie, tout ce qui est fait sans Dieu est vain. Au travers de ces quelques lignes, de ces quelques mots, de ces quelques versets, nous comprenons très simplement ce que Dieu veut nous dire. Que dans la vie, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses sans lui, mais que tout cela est vain. Et cet après-midi, Dieu veut nous parler au travers de ce psaume afin de, c'est le titre que j'ai donné à ce message, sortir d'une vie vaine. Nous avons vu l'auteur de ce psaume, c'est Salomon. Et il n'a pas écrit que ce psaume, il a écrit aussi beaucoup d'autres paroles qui nous sont rapportées dans la Bible. Il a écrit un livre aussi, le livre de l'Ecclésiaste. Et le livre de l'Ecclésiaste est un livre précieux. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui nous fait gagner du temps. Aujourd'hui, on cherche à gagner du temps par tous les moyens. Il faut que tout aille vite, très vite. On n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on reçoive tout rapidement. Et le livre de l'Ecclésiaste doit tous nous intéresser parce que c'est un livre qui nous fait gagner du temps. Regardez, venez avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 2. Ce que nous pouvons voir dans le livre de l'Ecclésiaste qui nous fait gagner du temps, c'est la vie d'un homme, Salomon, qui a utilisé son temps. Lui, il en avait. Lui, il avait du temps, il avait le temps qu'il voulait. Cet homme était roi, roi de Jérusalem. Et c'était un homme très sage, très intelligent, mais aussi très riche. Il avait beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Et c'est pour cela que c'est un livre qui nous fait gagner du temps, parce que cet homme a fait des recherches sur justement le but de la vie. Et le sens de la vie, pourquoi on est là. Et cet homme a fait beaucoup de recherches sur cela. Et ce livre nous fait gagner du temps, parce que si on voulait nous-mêmes, avec notre propre vie, essayer de faire des recherches dans les mêmes domaines qu'il a fait, je pense que même notre propre vie ne serait pas assez longue pour réussir à saisir ce que cet homme a saisi, les expériences vraiment qu'il a pu faire. Et c'est pour cela que ce livre nous permet de gagner du temps. Au travers de l'expérience de cet homme, mais plus qu'au travers de l'expérience d'un homme, des paroles d'un homme, comprenons bien que cet après-midi, c'est le message de Dieu. C'est le message qui nous laisse, qui nous adresse, parce que même si ce livre a été écrit par un homme, il est inspiré par Dieu. Et c'est un message que Dieu nous adresse cet après-midi pour nous donner de sortir d'une vie vaine. Et nous voyons donc dans ce livre, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 2, que Salomon a fait des recherches et on retrouve les cinq sens. Vous savez, on dit que l'homme a cinq sens. Le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher. Et on voit dans ce chapitre, le chapitre 2 de l'Ecclésiaste, les recherches dans lesquelles va se pencher Salomon pour trouver le sens, le but de la vie. Et il va faire des recherches dans ces cinq sens. On voit à partir du verset 3, il dit « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin ». Donc on voit qu'il est dans le sens du goût, là. « Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes. » On peut voir que là, il est dans la recherche du sens de la vue, des œuvres qu'il a faites, des entreprises, de la recherche aussi d'avoir cette position professionnelle et cette réussite. Donc j'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers. On voit très certainement que ces jardins devaient être magnifiques, ces vergers aussi. Et là on voit qu'il a été dans le sens de l'odorat. Au niveau des jardins, il devait y avoir des magnifiques fleurs. Je me fis des jardins, des vergers, j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt ou croisser les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Là, on voit qu'il est allé dans le domaine physique du toucher. C'est un homme qui a connu beaucoup de femmes. Il dit par la suite au verset 9, « Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. » Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais quand on voit l'expérience de cet homme, sa position, là où il en est arrivé, on peut se dire, mais cet homme, il faisait tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait, il l'avait, il avait dans sa vie, tout à sa disposition. On peut se dire, rien ne lui manquait. Cet homme, c'était obligé, il devait être heureux, comblé. Eh bien non. On voit par la suite que la conclusion, juste le verset qui suit, après tout cela, il va dire « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Tout est vanité et poursuite du vent. Voilà la conclusion. Voilà où en est arrivé cet homme. Au travers de toutes ses recherches, dans tous ses différents domaines. Et je vous dis, c'était quelqu'un d'intelligent, c'était pas quelqu'un. C'était quelqu'un qui a fait vraiment des recherches poussées, qui s'est appliqué à tout cela. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse. Mais voilà, il en est arrivé à cette conclusion, tout est vanité et poursuite du vent. Alors, cet après-midi, je vous rassure, le message ne s'arrête pas là. Parce que sinon, ça serait bien triste. Si on finissait finalement cette réunion comme cela, tout est vanité, bon ben, tout sert à rien, tout est inutile, futile. Non, il y a une bonne nouvelle que Dieu veut nous annoncer cet après-midi, pour chacun d'entre nous. Et Salomon n'en est pas resté là, heureusement pour lui aussi. Il est dit, et Dieu te dit cet après-midi, il le dit à chacun d'entre nous, « Vous me chercherez ». Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ce que Dieu nous dit. Tu me chercheras et tu me trouveras si tu me cherches de tout ton cœur. Et c'est précisément en se tournant vers Dieu que Salomon va trouver la solution, va réussir à combler sa vie, à combler son cœur, à trouver le sens, le but de la vie. Il va réaliser qu'il n'était pas juste un être physique avec ses cinq sens qu'on entend parler, hein, mais qu'il est aussi un être, qu'il avait aussi un être intérieur, des besoins intérieurs à combler, qu'il est un être spirituel. Et Salomon saisira que c'est uniquement en comblant cet être intérieur que, eh bien, il trouvera la paix, la joie, le bonheur de vivre. Et il trouvera qu'on peut remplir cet être intérieur qu'en se tournant vers Dieu. Et la conclusion de tout son livre, de toutes ses recherches, de toute cette analyse, et celle-ci, on la voit au verset 12, au chapitre 12, chapitre 12, verset 15, il dira par la suite, après toutes ses recherches, c'est ce qui nous montre qu'il avait compris qu'il fallait se tourner vers Dieu pour être heureux. Il dira... Verset 15, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Voilà la conclusion finale. Voilà sur quoi on pourrait s'arrêter cet après-midi et saisir ce à quoi Dieu nous appelle. Mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, parce que craindre Dieu, c'est-à-dire le respecter, c'est ça ce que ça signifie, parce que ce n'est pas avoir peur de Dieu. Cet après-midi, que personne n'ait peur de Dieu. Vous qui êtes là, qui entendez ce message, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse justement s'approcher de lui. On n'a aucune crainte à avoir de lui. Il nous appelle à venir à lui. Il est notre Père, notre Créateur. Il est celui qui nous a voulu. Il est celui qui veut nous faire du bien. Et cet après-midi, il veut te bénir. Il veut vraiment te secourir. Il veut remplir ta vie, combler ton cœur, te donner de sortir d'une vie vaine et de trouver le véritable sens de la vie, le but de la vie. Et donc, ça passe par cela, craindre Dieu, c'est-à-dire respecter Dieu et observer ses commandements, obéir à sa parole, mettre en pratique ce qu'il nous dit, ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce que cela signifie. Et nous savons que, parce que la Bible nous le dit, que aucun d'entre nous n'y est arrivé. Aucun d'entre nous n'avons réussi à craindre Dieu et à observer ses commandements comme il le fallait. Nous avons tous péché d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous failli. Nous avons tous désobéi aux commandes de Dieu. Nous avons tous offensé Dieu par notre comportement, soit par nos pensées, soit en parole, soit en acte. Et même Salomon qui avait saisi ces choses, qui avait réalisé justement qu'il fallait craindre Dieu, le respecter, l'honorer, observer ses commandements, même lui n'y est pas arrivé. Même lui a failli, même lui a fait des mauvaises choses. Cet après-midi, réalisons qu'il y a ici plus que Salomon. Il y a ici au milieu de nous, plus que Salomon. Il y a plus que le témoignage de Salomon dans la parole de Dieu, dans la Bible. Parce que si nous voyons des indications que Dieu nous donne, des expériences qui nous permettent de gagner du temps, il y a plus que cela. Il y a Dieu, il y a l'œuvre de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici, cet après-midi, dans ce lieu, plus que Salomon. Dieu est venu jusqu'à nous, en la personne de Jésus-Christ. Il s'est fait homme, il s'est fait chair, pour venir nous sortir justement de la vanité de cette vie. Et lui, ici-bas, il n'a pas vécu une vie vaine, il a vécu une vie utile, une vie qui a porté du fruit, une vie qui est utile pour chacun d'entre nous, pour nous tous qui sommes là, qui entendons ce message, pour tous les êtres humains. Jésus a vécu une vie utile et il n'a pas vécu une vie vaine, il n'est pas mort en vain. Parce que Jésus a marché ici-bas, il a fait du bien partout où il est allé, et il est allé jusqu'à la croix. C'est lui-même qui s'est offert sur cette croix. C'est lui-même qui est allé jusqu'à cette mort sur la croix, par amour pour chacun d'entre nous. Et il n'est pas mort pour rien, mais à la croix, il a pris sur lui nos péchés, notre condamnation, notre vaine manière de vivre, notre vie sans Dieu. Il a payé le prix pour que nous puissions en sortir, pour que nous puissions avoir de Dieu le pardon de tous nos péchés. Le pardon par rapport au fait que nous n'avons pas respecté Dieu comme nous aurions dû le respecter, que nous n'avons pas observé ses commandements comme nous aurions dû le faire. Jésus-Christ a payé le prix. Il a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions être sauvés et lui appartenir. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu ici-bas, sur cette terre. Et cet après-midi, Dieu t'appelle. Il t'appelle à sortir de cette vie vaine. C'est ce qui te donnera de ne pas te coucher tard, te lever tôt, pour rien. C'est ce qui te donnera de ne pas bâtir une maison, un foyer, une famille, parce que ça peut être l'image de cette maison, un foyer, une famille, pour rien. C'est ce qui te donnera d'être solide. Jésus a donné dans les évangiles une image très simple, une image qui nous parle encore aujourd'hui, l'image d'une maison bâtie sur le roc et une autre maison bâtie sur le sable. Et une tempête est passée sur les deux maisons de la même manière, la même tempête. Et d'après vous, quelle est la maison qui a tenu ? Celle sur le roc. Et quelle est la maison qui a été détruite ? Celle sur le sable. Par conséquent, c'est très simple, mais ça nous parle. Et ça nous parle de nos vies. Ça nous parle de ce sur quoi on bâtit nos vies, ce sur quoi on fonde nos vies. Et cet après-midi, Dieu nous prévient, afin qu'on ne mène pas une vie vaine. Aujourd'hui, on voudrait vous faire croire que c'est ça qui est vain, que c'est se tourner vers Dieu qui est vain, que c'est obéir à sa parole, mettre en pratique ses commandements, le respecter qui est vain, que c'est venir à l'église, lire la Bible, prier qui est vain. On voudrait vous faire croire cela. Un homme l'a cru. Un homme l'a cru, même un homme qui, pourtant, était sorti de cette vie vaine, qui s'était tourné vers Dieu. Et un homme l'a cru. À un moment donné, en regardant la vie, lui aussi, en faisant une analyse, il a été troublé dans son cœur, il a eu cette pensée. Il s'est dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est donc en vain, parce qu'il était dans la difficulté, il avait des souffrances, des problèmes. Et cet homme a remis en question cette démarche de s'être tourné vers Dieu. Il en est venu à douter, à croire que c'était finalement en vain qu'il s'était tourné vers Dieu. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est donc en vain que je me suis appliqué à marcher dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la pureté. Cet homme en était là. Mais j'aimerais vous dire cet après-midi que non, ce n'est pas en vain. De la part de Dieu, non, ce n'est pas en vain. C'est là la vérité. Vivre une vie vaine, c'est vivre sans Dieu, mais vivre une vie avec Dieu, attaché à lui, attaché à sa parole, dans l'obéissance, c'est loin d'être une vie vaine. C'est ce qui porte du fruit, c'est ce qui nous donne d'être utile, et c'est ce qui nous donne de recevoir le secours de Dieu. Parce que quand la tempête vient, sur nos vies, on en a tous des tempêtes, des difficultés, des épreuves. C'est là où on voit la différence. C'est là où on réalise que c'est loin d'être vain que de s'attacher à Dieu, que de choisir de s'appuyer sur lui, que de choisir de le mettre à la base de notre vie. Parce que c'est là où on voit la grande différence. Je me rappelle d'un homme à qui j'avais pu partager cela. Ce verset, exactement ce verset, dans le psaume 127 qu'on a lu, ce verset. « Si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et c'est une situation qui m'a beaucoup peiné, parce que cet homme est... Il ne croyait pas en Dieu. Quand je l'ai rencontré, il se disait athée. Et on a pu échanger, parler, et j'ai pu lui témoigner de ma foi et de l'œuvre que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, de cette bonne nouvelle qu'on partage cet après-midi, de ce que Dieu est capable de faire quand on s'appuie sur lui, quand on se confie en lui, du bonheur, de la paix qu'il donne. Et cet homme écoutait simplement, et il n'est pas allé plus loin. Il a laissé le temps, cet homme était marié, deux enfants, puis il avait une très bonne situation, il gagnait très très bien sa vie. Mais les années ont passé et cet homme a perdu son foyer. Son épouse est partie, il s'est retrouvé divorcé, à plus pouvoir voir ses filles, dans une situation terrible, ça m'a fait beaucoup de peine. Et alors que j'avais pu, et à chaque fois que je lis ce verset, souvent je pense à cet homme à qui j'ai pu partager. On sait que ce n'est pas vain quand justement on partage certaines paroles, hein, parce que c'est des choses qui sont semées dans les cœurs, et tôt ou tard ça peut porter du fruit, à partir du moment où on choisit de placer sa foi en Dieu. Cet homme n'a pas choisi cela, cet homme dont je vous parle, et il en a payé les conséquences, alors qu'il aurait pu les éviter, je me dis, parce que je lui avais partagé cela, mais bien avant que tout cela arrive dans sa vie, cet homme ne l'a pas saisi. Mais vous, cet après-midi qui êtes là, vous pouvez le saisir. Dieu est celui qui veut vous donner de sortir d'une vie vaine et d'éviter de vous retrouver dans des situations de souffrance difficiles. Vous vous retrouverez bien en difficulté. Et cet après-midi, pour sortir de cette vie vaine, pour que cette prédication ne soit pas vaine, cette parole ne soit pas vaine, eh bien, il faut que vous choisissiez de placer votre foi en Dieu. Il faut que vous choisissiez de vous tourner vers Jésus-Christ, de lui demander pardon pour tous vos péchés et de le craindre, de le respecter et d'observer ses commandements. C'est ça qui vous donnera concrètement de sortir de cette vie vaine et d'être secouru par Dieu. Parler de cette situation avec cet homme qui a vu son couple voler en éclats, et aujourd'hui encore on en voit, mais on voit aussi l'opposé. Parce que si j'ai vu un homme qui a vécu cette situation qui m'a fait beaucoup de peine, on voit des situations qui sont aussi très réjouissantes, merveilleuses, extraordinaires, d'hommes, de femmes, qui ont choisi de faire cette démarche, et alors que leur couple aussi, peut-être, était au bord du divorce, ont pu recevoir l'aide de Dieu et être réconciliés, et de nouveau avoir une maison, un foyer solide, et même des situations où, alors que c'était terminé, alors que le divorce avait eu lieu, on entend des situations où des couples ont pu, même bien des années après, revenir l'un vers l'autre, se demander pardon, se retrouver. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Vous le croyez vraiment cet après-midi, que rien n'est impossible à Dieu? Nous pouvons tous saisir cela, ces expériences, nous pouvons en faire. Je parle de couple, je parle de famille, on pourrait parler de tant d'autres choses, parce que ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que les couples et les familles. Peut-être que tu as une situation où tu es célibataire, et peut-être que tu es en difficulté, mais cet après-midi, Dieu te dit qu'il y a un but, un avenir aussi pour toi. Il y a des projets de paix que Dieu a formés sur chacun d'entre nous. Et Dieu nous montre cet après-midi le sens, le but de notre vie. Non, tu n'es pas fait pour avoir une vie vaine, une vie inutile, une vie futile. Mais Dieu t'a choisi. Dieu t'a voulu. Dieu t'a désiré pour que tu sois utile entre ses mains, pour que tu sois utile pour son œuvre, utilisé pour lui, dans son service, pour faire du bien autour de toi, pour parler de lui, pour témoigner. Et Dieu t'appelle maintenant à réaliser cela. Non, ce n'est pas vain quand on choisit de se tourner vers Dieu. Loin de là, on saisit le pardon de nos péchés, on saisit la vie éternelle, on saisit l'espérance, on saisit la grâce de Dieu. Et cet après-midi, Dieu nous appelle à ne pas recevoir cette grâce en vain, à ne pas nous tromper par de faux raisonnements dans cette réunion, mais vraiment à faire cette démarche, à se tourner vers lui, à se confier en lui, à lui demander: Seigneur, secours-moi, éclaire-moi, j'ai besoin de toi, à le choisir et à le mettre à la première place. Amen. On le fait, on prie ensemble, on termine ces moments par la prière. Seigneur, nous te disons merci pour cette réunion. Merci pour ta présence. Oui, merci parce que tu es là. Nous l'avons chanté. Et plus qu'un chant, nous savons que c'est la vérité. Il y a ici plus que Salomon, nous l'avons entendu. Tu es là, toi-même, le Dieu vivant et vrai. Tu es celui qui appelle à venir à toi, à se confier en toi, s'appuyer sur toi, à tourner les yeux vers toi. Cet après-midi, tu veux confirmer ta parole dans les cœurs. Tu es là pour consoler, pour délivrer, pour sauver. Je te prie d'étendre ta main dans ces moments, sur chacun, manifester ta présence, ton amour, d'envahir les cœurs de ta paix. Je te prie d'éclairer tous ceux, Seigneur, qui sont là, venus dans ta maison. Seigneur, je te prie de bénir chacun au nom de Jésus, de guérir les cœurs brisés. Tu es celui, Seigneur, qui donne cette joie, qui vient de toi, cette joie de t'appartenir, cette joie d'avoir une vie qui a un sens, une vie qui a un but. Seigneur, je te prie de bénir, Seigneur, chacun, afin que nous puissions saisir cette grâce, cette joie, la joie du salut, au nom de Jésus. Amen.